Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. En souhaitant une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Voilà, nous allons partager la parole de Dieu.
Père,
nous voulons te remercier pour ta parole. Merci parce que tu veux que nous apprenions, Seigneur, à être dans des dimensions nouvelles. Tu veux que notre mentalité change, Seigneur. Tu veux que nous puissions apprendre de toi. Et Père, nous voulons apprendre. Nous voulons, Seigneur, être changés. Nous voulons, Seigneur, avancer. Merci parce que tu veux que nous puissions acquérir ces mentalités de fils du royaume, Seigneur. Tu veux, Seigneur, que notre foi soit quelque chose qui ne soit plus basé, Seigneur, seulement sur qu'est-ce que je peux recevoir de toi. Mais apprendre une autre dimension. C'est pourquoi, Père, je prie pour que tu touches cette parole qui va être partagée ce matin et que tu puisses encourager ton peuple à aller plus loin, plus haut, Seigneur, dans une dimension nouvelle. Merci, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors ce matin, nous allons partager sur les finances et le royaume de Dieu. Parce que, comme je vous le disais précédemment dans les dîmes et les offrandes, vous savez, il y a des moments où dans nos vies, il y a des paliers. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous n'avez pas de connaissance sur un sujet. Par exemple, au début, tu reçois Jésus, puis tu pries, qu'est-ce que tu fais pour prier? Au départ, tu entends, tu es là, la première fois que tu vas dans une église, tu as reçu Jésus et tu écoutes celui qui t'a amené à l'église. Et si par exemple il fait amen, tu vas penser que c'est comme ça que tu dois dire amen, amen. Si par exemple il est un peu religieux et qu'il fait amen, tu vas être là et tu vas faire amen. Oui, parce que c'est normal. On va dupliquer ce qu'on voit faire chez les autres. Surtout quand on démarre dans la vie spirituelle, on a besoin de gens qui nous expliquent un certain nombre de choses. Et puis, on cherche parce qu'on ne connaît rien.
Alléluia.
Et il y a des gens, vous voyez, ils ont des espèces d'intonations, ils prient d'une certaine façon, donc tu vas suivre ce que tu entends. C'est là un peu où tu vas faire tes premiers pas avec le Seigneur. Bon, puis après tu vas découvrir par exemple comment prier un peu plus. Et puis c'est là où tu dis Seigneur béni, Seigneur béni, Seigneur béni moi, Seigneur béni, Seigneur béni, amen. Et ça c'est toute ta vie de prière. Tu restes à un niveau très bas. Puis un jour tu commences à découvrir ce que c'est que la vraie prière. Et alors là, tu as l'impression, alors que tu étais en train d'étouffer pendant 3, 4 ans, ou même 10 ans, ou même 15 ans dans ta vie, que tu étais un asthmatique spirituel. Comme ça. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui te met un gros truc d'oxygène. Je ne sais pas si on fait ça, les docteurs, vous me pardonnerez. Un gros truc d'oxygène, et d'un seul coup, tu vas faire.
je respire bien.
Ugasanga hari umunsi umwe umenga hari umuntu akuzaniye impwe mu nziza rakwambitse ugatangura
progresser dans ta vie spirituelle.
Guhema neza ukongera kuduga mu buzima bwawe bw'agakiza.
C'est incroyable.
Ukavuga uti ibintu uko bitangaje.
J'ai compris comment prier.
Ubu natahuye ingene basenga.
Et tu découvres.
Hamukabimenya.
Et là tu commences voir Dieu toucher ta vie d'une façon spéciale.
Ugatangura kubona Imana ikugendera mu buryo utari witeze.
T'avais telle et telle difficulté, tu pries et tu vois Dieu.
Hari ngorane warufise kana kugasenga ukabona ikiganza c'Imana.
T'as l'impression de revenir à ton premier amour avec le Seigneur.
Ukumva ugarutse kuri rwa rukundo rwa mbere rwawe n'Imana.
Tu prends des grands bols d'air.
Ukumva uronge w'inkomezi.
Tu commences à progresser et tu vois que les choses commencent à vraiment changer.
Ugatangura gutera imbere ukabona ko ibintu bitanguye gutera imbere vy'ukuri muri wewe.
Après l'euphorie du premier amour que nous avons tous avec le Seigneur quand nous recevons Jésus.
Rwa rukundo rwa mbere tusanga twaraciyemo twese tukicakira
Yesu. Là c'est ton nouveau bol d'air de respiration.
Ugasanga uwo munsi ushikiwe no gusubira kuduzwa mu buryo bushasha mu Mana.
Et tu avances.
Hamugatera intambwe.
Waouh, c'est bien.
Ivyo biraryoshe.
Mais là, tu as fait peut-être 2-3 ans, tu as bien avancé. Et tu atteins un plafond. Et là, tu restes. Tu restes. Et au bout d'un moment, tu commences un peu à t'endormir. C'est là où tu vas découvrir comment aller plus haut. Et là, tu vas commencer à découvrir la foi. Et là, tu vas pratiquer ta foi. Tu commences à grandir dans la foi. Tu vois qu'en déclarant ta foi, tu commences à vaincre des obstacles, à démonter des montagnes. Et là, tu commences à t'apercevoir que tu grattes, tu touches quelque chose de surnaturel. De beaucoup plus important où tu as ta responsabilité. Où tu dois prendre ta responsabilité. Et tu la prends et tu vas beaucoup plus loin. Et tu progresses bien. Et là, quand les gens te rencontrent, alors que tu avais tout un tas de problèmes dans tel et tel domaine,
waouh,
ta vie a beaucoup changé. Et c'est vrai. Mais si tu continues comme ça, tu vas atteindre un plafond. Et c'est là où c'est pas bon. Tu dois encore aller beaucoup plus haut. Il y a d'autres domaines de la foi et de la prière que tu dois apprendre. Parce que pour l'instant, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, tu es encore dans cette mentalité du serviteur. Cette mentalité du serviteur. Je fais des choses et Dieu va me donner selon ce que je fais, ce que je crois. Et ça, c'est une dimension qu'il faut acquérir, oui. Mais ce n'est pas une dimension dans laquelle tu dois continuer à vivre jusqu'à la fin de tes jours. C'est ce qui doit faire la différence dans ta vie. La différence dans ta vie, c'est de toujours chercher à vouloir aller plus haut et plus loin. Le jour où tu te contentes, où tout devient normal, tu ne cherches plus à aller de l'avant. Tu n'as plus envie d'aller plus haut. Pourquoi? Parce que tu te contentes d'une certaine normalité dans ta vie. Et on est tous pareils. Par exemple, les musiciens sont comme ça. Les musiciens, quand vous parlez à des professionnels musiciens, ils vous diront, vous savez, les musiciens sont très paresseux, c'est ce qu'ils vont vous dire. En général, c'est une vérité chez beaucoup de musiciens. Le musicien va passer des heures et des heures et des heures à apprendre. Et il va arriver à un certain niveau. Et quand il arrive à un certain niveau où c'est bien ce qu'il fait, où les gens apprécient ce qu'il joue, je vous garantis, il est plus prêt à faire des efforts pour aller plus haut. La plupart des musiciens atteignent un seuil et ils ne vont pas plus loin. Demandez aux musiciens, vous verrez, souvent ils sont paresseux. Ils apprennent des trucs là, ils apprennent un truc, deux trucs, trois trucs, ça sonne bien, ça passe bien. Leurs amis disent, waouh, c'est sympa ce que tu joues. Et il est content, il est satisfait, il a atteint un certain seuil. et il dépasse plus ce seuil. Dans 10 ans plus tard, il sera toujours au même niveau. C'est une tendance humaine. Une tendance humaine, c'est se dire, je suis arrivé à un certain niveau, donc finalement, ça va. Je vais pas essayer d'aller plus loin. Je ne vais plus faire les efforts que je faisais avant pour aller plus loin. Et vous savez que souvent c'est un problème que nous rencontrons dans la vie spirituelle. Rappelle-toi des temps où tu cherchais Dieu, où tu te bagarrais contre toi-même parce que tu ne comprenais pas certaines choses. Où tu étais là et tu disais, pasteur, j'ai soif de comprendre quelque chose. C'est vrai, je sais qu'il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Et t'as compris? Et Dieu t'a béni quelque part. Mais maintenant, t'es du style, bon bah, ça va.
Ça va.
J'ai pas de problème particulier, ça va. Je sais comment prier s'il y a un problème qui vient, ça va. Je connais comment confesser la parole de Dieu, ça va. Si j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu, ça va. Ce passage-là, ça va, je le connais.
Vous
voyez, et on arrive à une espèce de contentement, ce qu'on appelle. Où en fait, tu es là, tu dis, bon, bah, ça va, je connais ça. C'est plus vraiment un problème pour moi.
Oui,
et là, on n'a plus ce désir d'aller plus loin. Dans
2
Corinthiens chapitre 9, la parole de Dieu va nous parler des finances. Parce que vous allez me dire, pasteur, là, tu parles beaucoup de choses, mais pour l'instant, tu n'as pas parlé de ton thème. Si, si, t'en fais pas, j'y arrive.
Pasteur, vous avez dit, je vais vous dire,
Au verset, du verset 6, c'est un texte que nous connaissons extrêmement bien.
Parce
que souvent, je fais des enseignements là-dessus. Du verset
6
au verset 11, c'est vraiment la définition de la prospérité. C'est aussi les lois de la prospérité. Et c'est étonnant parce que Paul est obligé de remettre des pendules à l'heure. De redonner des principes fondamentaux.
Frères
et sœurs, il y a des temps où nous devons apprendre les principes fondamentaux.
Et
il y a des temps où nous les pratiquons.
Et
il y a des temps où nous voyons leurs effets. Ce sont les principes du royaume de Dieu. Et cette compréhension du royaume de Dieu est fondamentale pour nous. J'avais souvent des enseignements là-dessus. Parce qu'on ne peut pas comprendre et fonctionner dans le royaume de Dieu si on ne comprend pas le royaume de Dieu. Et concernant les finances, ce qui est étonnant, c'est qu'on a tellement besoin d'éducation pour déjà s'en sortir. Et on a encore besoin de beaucoup plus d'éducation pour comprendre réellement comment Dieu voit les choses. Mais déjà, l'éducation de base, nous avons du mal à l'acquérir. Nous avons tellement tendance à voir qu'il y a tel et tel et tel problème, et Dieu nous donne telle et telle solution, et on a même du mal à prendre les solutions divines. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de résultat divin avec des solutions humaines. Les principes humains ne peuvent pas amener les résultats divins. Si tu utilises des mentalités humaines, des mentalités du monde, tu verras simplement le résultat, les fruits du monde. Si tu utilises les principes divins, tu verras les résultats divins. Alors la parole de Dieu nous dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce.
Umuntu wese atange nkuko agabiye mu mutima wiwe atababaye canke atagoberewe kuko Imana ikunda utanga nezerewe kandi Imana ishobora kubasaza ko ubuntu bwose kugira ngo murushirize gukora ibyiza byose mufise ibibahagije muri byose nkuko handitswe ngo yatanze isabagire yahaye abakene ukugororoka kwiwe kwa mahibe bidashira kandi humubivyi imbuto n'imitsima yo kujya nizobaha ibongeranirize imbuto zanyu zo kubiba kandi zogwiza imbuto zo kugororoka kwanyu.
Alors quand on lit les versets donc les versets 8
usomye kuva kuri 8
et le verset 11
na 11
on voit vraiment ce que Dieu veut faire.
Ani ubone chimana igomba gukora byo kore.
Le verset 8 va nous donner, je vous rappelle, la définition de quelqu'un qui est prospère.
Umurongo 8 utwereka byukuri umuntu ateye imbere ngene ameze.
Au verset précédent, Dieu nous dit qu'est-ce qu'il faut faire et l'attitude que nous devons avoir. Le verset 8 va nous donner le résultat divin, je dirais, dans les minimaux qu'il veut que nous vivions.
Et je
vous rappelle que quelqu'un qui est pourvu n'est pas quelqu'un qui est prospère. Quelqu'un qui est pourvu, c'est quelqu'un qui vit selon ses revenus. Ça veut dire ce que tu reçois, tu le dépenses. Ça veut dire que je suis pourvu. Ça veut dire que ça va, j'ai pas de problème. J'ai suffisamment de revenus pour payer mon loyer ou mon crédit, pour me déplacer, pour manger, pour me soigner, pour m'éduquer et éduquer mes enfants, pour faire tout ce dont j'ai besoin. Me déplacer, etc. Ça, c'est pourvu. Mais ce n'est pas être prospère. Être pourvu, c'est avoir ses besoins fondamentaux selon le train de vie que tu veux avoir. Ces besoins sont là et régulièrement ils sont comblés. Alors, ça c'est déjà un premier niveau pour certaines personnes qui viennent d'un arrière-plan de pauvreté extrême. D'instabilité financière. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises
vivent
souvent dans des instabilités financières constantes. À partir du moment où ils n'ont pas l'éducation de la parole.
Et
c'est important de sortir de cette instabilité financière. Il y a des gens qu'on rencontre et régulièrement, ce qui se produit, c'est que vous les voyez, vous êtes sûr avant d'ouvrir la bouche que déjà ils vont vous parler qu'ils veulent de l'argent parce qu'ils ont des problèmes. Vous savez à l'avance, ils sont à 100 mètres de vous, ils s'approchent de vous, vous savez pourquoi ils viennent. Parce qu'ils ont une instabilité financière constante, chronique. Certains parmi vous, quand il y a des gens qui vous appellent, vous regardez votre téléphone et vous dites « Ah, je sais pourquoi il m'appelle. » D'avance, vous savez pourquoi. Avant même qu'il ouvre la bouche, vous pouvez lui dire « Je sais que tu m'appelles parce que tu as besoin d'argent. » Et Et vous faites avec raison, vous mettez votre téléphone un peu loin comme ça, et vous faites toc sur le petit bouton rouge téléphone, vous savez, l'icône téléphone rouge. C'est-à-dire arrêter le téléphone, renvoyer l'appel. Parce que vous savez très bien que la personne vous appelle pourquoi uniquement parce qu'elle a des problèmes d'argent. Et vous savez très bien que son discours va être enrobé de versets bibliques, de Amen et des Alléluia. D'ailleurs, la première chose qu'il va vous dire, Imana Shimwe Chane. Directement, vous savez qu'il va faire ça. Il va d'abord enrober son discours, vous saluer christologiquement. Et bien sûr, vous allez lui répondre christologiquement. Et après, on engage la conversation. Et pourtant, c'est des chers frères et sœurs qui prient peut-être tous les jours. Mais qui ont une instabilité chronique au niveau de leurs finances. Et Dieu promet que ça ne doit pas durer dans nos vies. Si tu en es là aujourd'hui, il va falloir que tu acquières un niveau, une première dimension. Et ça, il va falloir que tu te bagarres contre tes mentalités, contre tes circonstances, contre tout ce qui vient et qui continue à t'humilier au niveau de tes finances. Parce qu'un enfant de Dieu, le minimum dans lequel il doit vivre, c'est la provision, c'est le minimum. Le minimum, c'est d'être pourvu. Ça, c'est vraiment le minimum que Dieu veut pour toi. C'est-à-dire que tu n'es rien à devoir à qui que ce soit. Que tu termines avec tes histoires de dettes. Que tu ne sois pas en train, comme certains chrétiens, d'emprunter, c'est-à-dire de demander à une montagne d'être déversée sur toi pour combler tout un tas de vallées, tout un tas de trous. Parce qu'il y a des gens qui courent partout pour avoir de l'argent. Parce que derrière eux, il y en a 10 qui courent derrière eux. Qui doivent de l'argent. Donc ils essayent de qu'on leur donne de l'argent sur un prétexte pour ni plus ni moins combler des trous. Mon frère, ma soeur, si tu es encore dans cette logique-là, il faut que tu changes parce que Dieu t'appelle à autre chose. Dieu t'appelle à relever la tête. Dieu t'appelle à sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu es. Pour que tu puisses commencer déjà à être au premier plafond, c'est-à-dire être pourvu. Rappelle-toi, il n'y a pas dans la parole de Dieu le petit truc magique qui va changer tout du jour au lendemain. Quand nous sommes dans des circonstances, il y a des raisons, il y a des mentalités qui nous ont amenés là. Ce que tu es à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'abord. Et il
n'y
a rien de plus vrai dans les finances. Donc revenons sur ce verset 8. Ce verset 8 va nous parler de la définition de la provision. La prospérité. Alors, Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces. Ça veut dire le fait de commencer à connaître un certain nombre de principes divins, de les pratiquer. On va voir ce qu'il explique un peu plus haut. Va permettre à Dieu de libérer un certain nombre de choses dans ta vie. Ça va libérer des choses. Ce que Dieu appelle ici, ce que Dieu appelle au travers de Paul, des grâces, toutes sortes de grâces. Alors voyez, ici il reprend d'abord la provision, le premier état. Afin que possédons toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins. Donc la première partie du verset, c'est la provision.
Tout le monde dit la provision.
La provision
est un premier niveau dans ma vie.
C'est un premier niveau dans ma vie.
Répétez encore, la provision.
La provision.
C'est un premier niveau dans ma vie.
C'est un premier niveau dans ma vie.
Amen.
Amen.
Ça, c'est important à comprendre.
Et bien, nous vivons bien là.
Parce que la parole de Dieu nous parle d'être pourvu. Dans Philippiens, on a ce texte.
Regardons
ensemble, Philippiens.
Nous
savons qu'il y a beaucoup de textes que vous connaissez, mais je veux vous faire quand même un ensemble de choses qui va dans un sermon. Philippiens, chapitre 4, verset 19.
Philippiens, chapitre 4, verset 19.
4:19, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, c'est-à-dire pour que Christ soit glorifié dans votre vie.
Vous
voyez, ici, il parle de pourvoira, de provision. C'est une promesse sur laquelle tu dois apprendre à appuyer ta foi. Mais si
tu
es seulement pourvu, ça veut dire que c'est vrai, tu sors d'un état d'instabilité financière, mais tu n'es pas à l'abri d'un incident financier. Tu peux te refaire plonger dans une instabilité. Par exemple, c'est ce qu'on voit, je vous le disais assez souvent, par exemple quelqu'un qui a un tout petit salaire au départ. D'un seul coup, il se retrouve, son salaire multiplié par 5, par 10, parce qu'il a un super boulot. Le piège classique qu'on voit, c'est que la personne d'un seul coup va multiplier son niveau de vie par rapport au salaire qu'il va toucher.
Le
nouveau salaire. Il est pourvu, il est bien.
Ça se
passe bien. Il a maintenant un bon niveau de vie. Mais si il a un incident financier, il replonge. Ça veut dire qu'il a peut-être aujourd'hui, tu le vois sortir dans des bons restaurants, il a acheté une toute nouvelle voiture, il en a même acheté deux.
Il a acheté
un beau costume tout neuf comme Steve. Steve, il est prospère, il n'est pas pourvu seulement. Et vous voyez, il a une belle cravate, il est chic, hein? Vous voyez comme il est chic. Hein? Non, Steve, c'est parce qu'il est prospère qu'il s'est acheté un costume. C'est pas parce qu'il est pourvu seulement.
Amen.
Et en fait, vous voyez, c'est un peu la difficulté qu'on voit chez beaucoup de gens. D'un seul coup, ils sont bénis par Dieu. Et ils augmentent leur niveau de vie. Et ils l'ajustent par rapport à ce qu'ils reçoivent.
Donc,
ils restent dans le premier niveau, la provision. Ça veut dire qu'ils sont pourvus, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui rentre, ça sort. Et ça, c'est vraiment un problème que l'on voit. Si la personne, pour une raison ou pour une autre, son contrat s'arrête, ou qu'il y a un problème sur le projet, ou qu'il y a un incident quelconque, même s'ils ont un incident personnel, un accident grave par exemple, ou un autre problème très grave, d'un seul coup ils se retrouvent à nouveau dans une instabilité financière. Donc ça veut dire qu'ils ont bien progressé parce qu'ils ont commencé à découvrir certains principes divins. Mais ils ne sont pas encore sécurisés parce qu'ils ne sont pas prospères. Vous comprenez bien la différence entre la provision et la prospérité. Comme disait Audrey Mac, faites-moi un sourire ce matin. Parce que c'est une différence. Il y a vraiment une différence par rapport à ça. Tu ne peux pas vivre seulement dans la provision. Si
tu vis seulement dans la provision, tu risques tôt ou tard de rencontrer un incident financier qui va te faire redescendre.
Iyo baye mu guhazwa mu byukeneye gusa, urashobora guhura n'isanganya riri gusubiza kure.
Donc, à ce moment-là, tu as besoin d'une révélation supplémentaire. Tu as compris que Dieu veut pourvoir à tes besoins. Tu pratiques, par exemple, Philippiens 4, un peu plus haut, le verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien », verset 6, « Mais en toute chose, par la prière, par la supplication avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
Verset 6 et 7. Bifatanije no gukenguruka maze amahoro y'Imana rutuko yomenwa n'umuntu wese azoshiba mirimitima yanyu n'ivyumviro byanyu muri Kristo Yesu.
Donc on voit vraiment que cet aspect de provision, c'est vraiment une étape indispensable par laquelle les chrétiens doivent passer.
Et
certains, vous avez encore peut-être des montagnes à arracher de votre vie, des montagnes de mentalité pour pouvoir même arriver à ce premier seuil.
Mais
ne perds pas courage et apprends à pratiquer les principes divins. Apprends à être éduqué dans tes finances. Commence à faire attention à ta gestion.
Et tu vas commencer
à voir la vie de Dieu dans tes finances.
Mais
ce que je veux pas, c'est que vous vous contentiez de la provision.
Mais
pour certains, c'est encore un défi pour vous.
Pourquoi?
Parce que vous êtes dans le royaume de Dieu. Mais vous êtes au premier niveau. Vous êtes au niveau du mendiant. Parce qu'avant d'être serviteur, on est mendiant. Et très souvent, les chrétiens ont des mentalités de mendiants vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de leurs frères et sœurs en Christ. Tu as encore des montagnes dans tes mentalités qui s'opposent parce que tu as grandi dans ces mentalités de pauvreté, de manque, de mendicité autour de toi, parce que c'est ce que tu as vu, c'est comme ça, c'est tes repères malheureusement. Et ces repères, il va falloir que tu les changes parce que tu es entré dans le royaume de Dieu et Dieu veut te faire passer par les différentes étapes de commencer à sortir de cette mentalité de mendicité et de dire non, Dieu m'a sauvé, je vais apprendre parce que j'ai vu des gens en sortir, à sortir de cette pauvreté parce que Dieu veut que je change mes mentalités. Et quand tu commences déjà à faire ce premier pas, tu commences à prendre le bon chemin. Le bon chemin, c'est pas d'aller faire des prières en disant « Seigneur, avant d'aller ce matin au culte de l'église El Shaddai, je prie pour que tu prépares le cœur de ma sœur. » En général, il ne prie pas « Prépare le cœur du frère » parce que les cœurs des frères sont plus durs que le cœur des sœurs. Il est plus facile de soutirer de l'argent d'une sœur en Christ que d'un frère en
Christ.
Parce que le frère en Christ, il va regarder celui qui vient avec une mentalité de mendiant, il va lui dire « Mais tu as deux bras et deux jambes. »
Par
contre, la sœur, elle va dire, je vois que tu pleures, mon frère.
Tiens.
Mais vous savez, donner à quelqu'un qui a un problème,
hein,
c'est comme vous connaissez tous ce proverbe chinois. Si tu donnes un poisson à quelqu'un qui a faim, c'est vrai, il va soulager sa faim pour une journée. Mais demain, il va revenir, il aura encore faim. Donc, tu peux aider, parce que la Bible nous dit d'aider les pauvres. Il faut les aider intelligemment.
Et il ne
faut surtout pas encourager des histoires de fausse spiritualité pour aller encourager des mentalités de
mendiants.
Parce que tu dois tendre la main à celui qui a un problème. Mais tu dois aussi le mettre devant ses responsabilités pour qu'il sorte de ses mentalités. Pour qu'il apprenne la productivité divine. Et quand nous faisons ça, frères et sœurs, nous aidons beaucoup plus quelqu'un. Plutôt que de lui apporter un poisson tous les jours. Parce que tu vas créer une relation de dépendance. Et la personne va venir te revoir la semaine d'après. Et encore la semaine d'après. Mais entre-temps, il aura fait un jeûne et prière pour que ton cœur soit encore plus touché. Parce qu'il n'aura pas eu à manger pendant 3 jours. Et Dieu ne veut pas ça pour les gens. Dieu ne veut pas qu'on reste dans des mentalités de mendicité. Il faut en sortir. Et il faut apprendre. Avoir un premier niveau d'éducation dans le Seigneur. Et Dieu nous dit comment faire. Les versets 6 et 7. Nous enseigne comment petit à petit sortir de ces mentalités. Semer dans le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai rien, comment je peux semer? Tu mets à disposition de Dieu ce que tu as au départ. Rappelez-vous, nous avons plein d'exemples que vous connaissez dans la parole de Dieu. Ce que tu fais, c'est de mettre à disposition quelque chose pour que Dieu puisse agir. Le jeune enfant, il a donné ses quelques pains et ses poissons. Et croyez-moi, quand il a donné ça, quand les disciples sont venus, quand Pierre lui a dit, hey, t'as des poissons toi et du pain? Allez, donne ça mon petit. Je pense qu'il a dû garder ses paniers comme ça au début. Pourquoi lui, il est gros, il est costaud, il veut manger mes poissons et mon pain, et moi, qu'est-ce que je vais manger après? Il a dû se dire ça. Pierrot, moi Pierrot, j'ai prévu mon coup. Si vous, Jésus et son équipe, vous n'avez pas prévu votre coup, c'est votre problème. Non, il a disponibilisé ça. Rappelez-vous la veuve avec le prophète. Qu'est-ce que tu as? Un peu d'huile et un peu de farine. Et Dieu a pu travailler au travers de ça. Dieu a besoin de quelque chose pour travailler dans ta vie. Et tu commences là où tu es. Ne te lamente pas, commence là où tu es. Le problème, c'est que les gens veulent commencer avec des trucs qu'on appelle idylliques, c'est-à-dire plein d'illusions. C'est pour ça qu'ils vont voir d'autres personnes qui ont des biens et qui leur disent, tu sais, j'ai un projet. Ça ne coûte que 5 millions. Comme si tout le monde avait 5 millions dans sa poche. Ah, en fait, j'avais 5 millions dans ma poche aujourd'hui par hasard. Je pense que personne n'a 5 millions dans sa poche par hasard. Tu vas pas te promener tous les jours 24 heures sur 24 et même dormir, ou alors c'est vraiment que tu as une mentalité de pauvre là. Dormir comme Wafo qui dormait avec ses 1000 dollars qu'on lui avait donné et qui se réveillait 3 fois la nuit pour savoir si on ne l'avait pas volé sous son matelas ces
1000 dollars.
Vous vous souvenez de l'histoire de Raoul Wafo?
Le
premier jour où il avait eu son don, il dormait plus la nuit. Il se réveillait en cauchemar, il soulevait son matelas pour savoir s'il y avait encore ces 1000 dollars, que personne n'était venu pendant la nuit lui voler ces 1000 dollars.
Oui,
ça c'est la mentalité du pauvre. C'est terrible, mais c'est comme ça.
Et
la mentalité du pauvre, c'est justement aller voir quelqu'un qui a des richesses
et
lui proposer quelque chose.
Pour
lui dire, tu sais, si je peux faire ce projet-là, tous mes problèmes d'argent vont être terminés. Et des gens qui sont très riches se disent, bah, c'est bien, je vais pouvoir aider quelqu'un à sortir.
Et ils
donnent. Et le résultat, c'est qu'il a tout bouffé. Les 5 millions, il va les bouffer. Il
ne
va plus rien rester. Il ne restera plus rien parce que le problème n'est pas l'argent, le problème est la mentalité.
Et
il faut sortir de ça.
Commence
là où tu es. Arrête de rêver avec l'argent des autres. Celui qui rêve avec l'argent des autres, c'est quelqu'un qui n'a pas la mentalité de Dieu. Il vient vers toi et il dit, tu sais frère, j'ai pensé qu'avec ton argent je pourrais faire ça.
Ouais,
ça fait trois nuits que je dors pas et je sens qu'avec ton argent, l'argent que tu vas me donner là, ça, je vais pouvoir faire ça.
C'est
vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de projets avec l'argent des autres. Ça, c'est la mentalité du pauvre. Non, la mentalité du royaume, c'est d'abord de commencer là où tu es. Et tu vas apprendre. Tu vas développer ce que tu as. Celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est normal, tu sèmes peu, tu vas moissonner peu au départ. Mais tu vas commencer à moissonner. On verra celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. On
verra ça après.
Verset 7, on parle de l'attitude. Sans tristesse ni contrainte, l'attitude. Commence là où tu es. Commence à te dire, je veux arriver du manque vers le seuil au moins de la provision. Ça va être un effort considérable, mais c'est le début. Commence par le commencement. Et là, tu vas voir, Dieu va commencer à toucher ta vie.
Et
va t'aider à franchir ce premier seuil. Maintenant, le deuxième seuil. Revenons au verset 8 ou 9. C'est 9, hein, c'est ça? Oui, 9. Que je ne dise pas de bêtises. Pardon, le verset 8. Revenons au verset 8. Là, on va voir le deuxième seuil. Le deuxième seuil, c'est quoi? Dieu dit, possédant toujours en toute chose de quoi satisfaire à tous vos besoins, premier seuil. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le deuxième seuil, c'est quoi? C'est la prospérité. La prospérité, c'est qu'est-ce qui va te rester régulièrement et avec le potentiel pour produire encore autre chose. Le premier seuil, on a vu, c'est tout ce qui rentre, ça sort. C'est être pourvu. Le deuxième seuil, c'est je produis plus que ce dont j'ai besoin. Et là, j'ai un potentiel. C'est ça la prospérité. C'est le différentiel entre ce qui rentre et ce qui sort. Plus ce différentiel est important dans ta vie, plus tu es prospère. C'est ça qui donne la dimension de ta prospérité. Je vous rappelle que la prospérité n'est pas le salaire que nous pouvons avoir.
Ce
n'est pas le montant, le nombre de zéros que tu as après des 1, des 2, des 3 ou peut-être des 9.
Ce n'est
pas ça l'important. L'important, c'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et quel est le différentiel que tu as. Et comment tu vas utiliser ce différentiel? Parce que dans ta provision, ta semence et ta dîme. Quand quelqu'un est pourvu, bien sûr, il donne au Seigneur régulièrement sa dîme.
Et en même temps,
tous ses besoins sont rencontrés. Premier seuil. Deuxième seuil, c'est la mentalité du serviteur. Le premier seuil, c'est la mentalité du mendiant. Tu cherches partout comment combler des trous. Tu commences, mais tu t'en sors pas encore. Le deuxième seuil qui t'amène à la prospérité, là, c'est la mentalité du serviteur dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu comprends comment utiliser les principes divins. Tu sais prier et voir Dieu agir dans ta vie financière. Tu sais aussi proclamer ta foi. Tu sais relever les défis. S'il y a quelque chose, un trou qui arrive, tu sais comment le combler par ta foi. Et voir Dieu agir surnaturellement. Tu as une stabilité financière. Tu ne retomberas plus dans la mentalité du mendiant ou à ne plus être pourvu. Mais là, tu commences vraiment à monter vers le deuxième seuil. Et dans ton deuxième seuil, tu as plus que tu reçois plus que tu dépenses. Et là, tu peux créer aussi d'autres sources de revenus. Donc, tu as d'abord un potentiel pour bénir au-delà de ta dîme. Tu fais des offrandes régulièrement. Tu sens dans ton cœur que tu dois donner à telle personne, tu le fais. Tu sens dans ton cœur que tu dois donner pour tel et tel projet, tu le fais. Projet divin. Tu as aussi une potentialité de pouvoir aider des personnes qui ont des difficultés et les aider à changer aussi dans leur mentalité. Je vous rappelle que les pauvres n'aident pas les pauvres. Un pauvre n'est pas un pauvre. Ce ne sont pas les pays pauvres qui aident les pays pauvres. Vous savez bien, ce sont les pays riches qui aident les pays pauvres. Les gens qui ne sont pas bien pourvus ne peuvent pas aider les gens qui ne sont pas bien pourvus. Et des fois, j'ai vu des gens le faire. Des gens qui n'étaient pas bien pourvus, qui aidaient parce qu'ils voyaient d'autres qui avaient des grosses galères. Et ces premiers qui ont aidé se sont retrouvés avec des plus grandes difficultés et ont coulé comme ça financièrement, avoir de tels problèmes, c'était terrible parce qu'ils avaient donné en fait ce qu'ils n'avaient pas vraiment. Et tu ne peux pas faire ça. Si tu veux aider quelqu'un, il faut que tu sois fort. Je vous ai toujours dit une chose, ce ne sont pas les malades qui aident les malades, ce sont les gens en bonne santé qui aident les malades. Ce ne sont pas les pauvres qui aident les pauvres. Ce ne sont pas les gens mal pourvus qui aident les gens mal pourvus aux pauvres. Mais ce sont des gens qui ont des richesses et qui sont prospères, qui peuvent aider à faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que tu dois arriver déjà au moins dans ce niveau-là. Mais ce niveau-là n'est pas le niveau dans lequel Dieu veut nous amener. Ça
ne
doit pas être une finalité. Nous allons voir que arriver dans la prospérité, c'est quand même avoir cette mentalité du serviteur. Vous allez le voir dans le verset 6 à nouveau. Regardez bien le verset 6. La mentalité du serviteur, c'est de regarder et de faire des choses en vue d'être rémunéré en retour. C'est déjà un seuil bien plus haut que le seuil du mendiant. C'est déjà beaucoup mieux. Mais ça
ne
doit pas être une finalité, frères et sœurs. C'est le point sur lequel j'aimerais insister ce matin. Parce que toujours, comme je vous ai dit en introduction, le problème que nous avons, c'est que quand on progresse dans quelque chose et qu'on arrive à un certain seuil, l'être humain, nous avons tous la même tendance, c'est à devenir paresseux quelque part, en disant je suis là, ça va, bon, je ne vais pas faire autant d'efforts que j'ai fait pour aller encore plus haut. Et ce qui fait qu'on est un bon nombre à plafonner souvent dans des domaines. Parce qu'on n'élargit pas l'espace de nos tentes. Vous comprenez cette expression, élargis l'espace de ta tente, c'est ce que Dieu disait à Israël. Tu restes dans ta dimension, qui est pas mal, mais tu pourrais faire tellement mieux. Vous savez, c'est comme certains d'entre vous qui étiez à l'école. Vous marchiez avec le régime minimum parce que vous passiez de classe sans effort. Hein, certains, vous étiez comme ça à l'école. Même à l'université. Je fais service minimum. Je fais service minimum. Parce que je sais que de toute façon, je vais avoir mes examens et je passerai quand même. Ça, c'est le genre de mentalité que nous avons souvent. Par exemple, tu as un enfant parmi les X que tu as et tu sais que celui-ci, à l'école, il réussit bien. Je ne sais pas comment il fait. Il étudie jamais à la maison, mais à l'école, impeccable. On est content d'avoir des enfants comme ça. C'est bien dans un sens, mais c'est mauvais dans un autre. Parce que ton enfant dans la vie s'habitue à faire une chose. Le service minimum pour passer tout juste au standard. Et vous verrez que ces enfants-là, quand ils sont adultes, comme ils ont toujours eu des facilités à l'école, par exemple, ils ont des tendances à ne pas, je dirais, libérer vraiment ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire, ils ne procurent même pas d'efforts. Ils vont réussir, ils vont avoir leur diplôme, mais ils vont être dans la masse des gens moyens bons. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'en suis toujours sorti tranquillement avec le moindre effort. Et ça crée des adultes qui sont paresseux pour progresser. J'aimerais avoir un amen. Pourquoi ça vous parle? Ça nous parle à tous. Parce que quelque part, on a tous cette tendance. Donc tu commences à découvrir les principes de prospérité. Tu commences à dire, oui, moi, je sème. Vous savez, on a besoin d'être provoqué dans des défis de la foi. Et c'est là où vraiment je veux en venir ce matin.
Bon,
tu sèmes, tu proclames, tu pries, tu es bon dans ton boulot. Tout va bien, tu es prospère, tous les mois tu as des sous en plus comme tu veux. À chaque fin d'année, tu peux calculer les millions, les dizaines ou les centaines que tu as en plus. C'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas là où Dieu veut t'amener. Dieu veut t'amener beaucoup plus haut. Parce que pour l'instant, tu es passé de la mentalité mendiant à serviteur. Tu donnes à l'œuvre du Seigneur. Tu donnes à droite à gauche. Tu as ce potentiel. Et c'est bien, ça marche bien. Mais tu
ne
dois pas t'arrêter là. Parce que tu vas être limité dans ta foi. La foi peut être vue de deux façons. Tu peux avoir la foi avec la mentalité du serviteur. Et la foi avec la mentalité du serviteur fonctionne comment? Tu es là, tu sais comment la foi fonctionne. C'est le principe. Tu sais que tu pries ton Père dans le nom de Jésus. Et tu sais comment motiver ta foi. Tu sais prier dans la foi. Tu sais recevoir de Dieu dans la foi. Tu sais parler la parole de Dieu. Et tu arrives à un certain seuil où tu vois Dieu te bénir. Parce que tu viens devant Dieu.
Et
tu connais comment Dieu fonctionne. Tu sais que Dieu ne peut pas renier sa parole. Donc tu viens avec lui, devant lui avec assurance. Et tu es très heureux de le faire. Et tu proclames, tu pries et tu, entre guillemets, provoques l'action de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est très bien. Mais il y a plus. Vous savez, dans la foi, il y a un aspect relationnel. Tu ne pourras pas aller beaucoup plus loin dans la foi. Tu atteindras un certain seuil. Si tu ne comprends pas qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose qui soit changé dans ta vie. Que tu passes de la mentalité du serviteur à la mentalité du fils. Et on a cette illustration qu'on a pris bien des fois ici, mais on va la reprendre et aller encore plus loin dans Luc chapitre
15.
Parce que si tu ne comprends pas bien ce principe, tu resteras au deuxième seuil. C'est bien le deuxième seuil. Mais il y a plus que ce deuxième seuil. Ta foi ne sera pas, je dirais, ne pourra pas devenir gigantesque si tu restes avec une mentalité de serviteur. La mentalité de serviteur, c'est je fais envers Dieu des choses. Donc Dieu va faire envers moi des choses. Ça veut dire je travaille, j'œuvre pour Dieu. Et ce que je pose comme action, comme prière, comme foi, j'en reçois une rétribution. Et ça, c'est biblique. La Bible nous parle de la rémunération de notre foi. C'est tout à fait biblique ce que je vous dis ici. Mais ça vous amènera à un certain niveau et vous risquez au bout d'un certain nombre d'années de plafonner à nouveau. Ce qui vous amènera beaucoup plus haut, c'est de comprendre, de passer de cette mentalité de serviteur à celle de fils. Rappelez-vous de cette histoire dans Luc. C'est la fameuse histoire du fils prodigue. Cet homme qui avait deux fils, l'un demande la moitié de l'héritage et s'en va. Puis ce garçon va jusqu'au bout, dans le péché jusqu'au cou. Et puis il revient en lui-même. Et il désire vraiment se repentir, et il se repent. Il revient dans la maison du Père. Nous savons que c'est une image du fils du rétrograde qui revient dans la maison du Père. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir l'autre fils. Donc on va lire juste du verset 20 jusqu'au verset 24 d'abord. Je vais juste lire en français. Il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Verset 24, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Ça c'est toute la partie qu'on connaît très bien, pas la peine de lire en Kirundi, c'est la partie qu'on connaît très bien. Le fils qui revient avec un cœur repentant et le père qui est tellement heureux de retrouver son fils.
Image
de Dieu le père
vis-à-vis
d'un rétrograde,
vis-à-vis
de quelqu'un qui revient à lui. Maintenant l'autre fils va réagir d'une façon différente. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela l'un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que tu me réjouisses avec mes amis. Verset 30. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Alors regardons, il fallait bien s'égayer, etc. Mais regardons un peu le verset 29. Le fils aîné,
Muhungu w'imfura,
qui était supposé être l'héritier, l'héritier principal,
ariwe yitwa ko ariwe samuragwa mukuru,
lui-même
wenyene,
d'abord quand il entend qu'il y a du bruit dans la maison,
ugambere yumvise yuko bariko baratamba hari induru muhira.
J'ai bien aimé, c'est Hubert qui nous a dit ça hier.
Hubert nous a twigishije atubwira.
Le fils aîné,
umuhungu w'imfura,
il est dans sa propre maison.
Ari wabo, ari muhira.
Il est supposé être l'héritier.
Niwe samuragwa.
Le privilégié.
Niwe akunzwe.
Le plus grand des héritiers selon la loi de Moïse.
Novuga afise byinshi
aragwa. En tant qu'aîné.
Bihwanye n'ibyagezwe bya Mose nk'imfura.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Achakoriki.
Il va voir, Hubert nous a dit ça hier, j'ai vraiment aimé. Il a dit, il va voir un serviteur pour demander ce qui se passe dans sa maison.
Awa kuja kuraba se yagiye kuraba umukozi ngo mubaze ibiriko biraba muhira wabo.
Lui-même, le fils de la maison aîné.
Umwana w'imuhira mukuru w'imfura.
Il va voir un serviteur, il va voir le groom et lui dit, qu'est-ce qui se passe dans ma maison?
Agenda kuraba umukozi amubaza ngo mbe ibi bintu biri muhira nibiki?
Alors qu'il avait un accès auprès de son père.
Kandi yarashoboye kwegera se akamubaza.
Et lui, il avait une mentalité de serviteur.
Nuvuga ngo yiyumvira nk'umukozi.
Il était dans la maison du père.
Yari mu nzu kwa se.
Il avait le niveau le plus élevé de la succession de son père.
Afise urugezo rwo hejuru rwo kuragwa ivya se.
Mais il se comportait avec une mentalité de serviteur.
Ariko akiyumvira nk'umukozi.
Pourtant, il était dans la maison, il était pourvu.
Ariko yari muhira, yari
mu nzu. Il avait la prospérité de la maison.
Yarafise ubutunzi bwo muhira.
Mais il était resté dans ce niveau-là.
Ariko yari yagumye muri ugo
rugo. Il savait qu'un jour il allait hériter.
Yarazi ko umunsi umwe azoba samuragwa.
Lui-même aurait pu prendre des chevreaux, il aurait pu prendre tout ce qu'il voulait, faire toutes les fêtes qu'il voulait.
Ubwiwe gushobora gufata impene zose ashaka, inka zose ashaka.
Parce qu'il avait les moyens.
Kubera ko yari
afite. Parce qu'il avait la prospérité de la maison.
Yari afise ubwo butunzi bwari gwiwe muhira.
Mais il a limité son potentiel.
Ariko yabugarukirije ahantu hafi.
Parce qu'il avait la mentalité du serviteur.
Kubera yumvira nk'umukozi.
Exactement, il va le déclarer à son père. Voilà, il y dit exactement, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que quoi? Je te sers. Est-ce qu'encore dans ta mentalité aujourd'hui, tu es prospère et tu es là et tu sais comment marche la prospérité? Les lois de la prospérité. Tu es quelqu'un d'honnête, d'intègre. Tu sais donner au Seigneur. Tu ne loupes jamais une occasion pour qu'il y ait une semence particulière que tu donnes. Mais est-ce que dans ta tête, tu sers Dieu avec tes finances? Si c'est ton cas, ça veut dire que nous avons encore la mentalité du serviteur. Et Dieu ne pourra pas nous bénir au-delà d'une certaine prospérité. Parce que nous manquons d'une mentalité. Le troisième niveau de mentalité, c'est la mentalité du fils. Lui, il était fils. Comme vous et moi, nous sommes. Avec tous les privilèges du royaume. Mais le problème que nous avons, certains d'entre nous, nous sommes dans cette mentalité-là. Nous ne sommes plus dans la mentalité du mendiant. Oh Dieu, tu vois, j'ai besoin de 500 000 francs, sinon mon propriétaire va me chasser de la maison. Ça, c'est fini depuis très longtemps. Et tant mieux. Tu es dans le cas où vraiment Dieu t'a béni. Mais est-ce que tu vas t'arrêter là?
Non,
c'est ça ma question ce matin.
Et
ce qui nous empêche d'aller plus loin,
et qui
d'une façon beaucoup plus grande, c'est ça.
Niki.
Je te sers.
Ndagukorera.
Donc, comme je te sers, toi, Seigneur, toi, mon Père céleste, mon Père, mais on le dit, mais mon Père avec la mentalité du serviteur, finalement, tu dois me bénir en retour. Tu dois me bénir. Parce que je fais ça, alors tu dois. Dieu le fera parce qu'il est derrière sa parole. Mais ça montre que nous ne sommes pas encore dans des mentalités très élevées. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? J'essaie de vous montrer ces trois niveaux qui sont importants. Le premier niveau qui reste vraiment attaché à trop de chrétiens dans ce monde. L'autre niveau déjà où on est prospère.
Mais
on n'est pas encore dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ce troisième niveau, frères et sœurs, c'est un niveau de cette compréhension. Quand tu te sens et que tu te sais fils, et que tu te comportes comme fils, tu n'es pas en train de te battre dans la foi. Tu n'es pas en train de te battre dans l'obéissance. Tu n'obéis pas en vue d'avoir quelque chose. Tu obéis parce que tu aimes. C'est différent. Parce que dans l'obéissance, il y a une obéissance, souvent on se dit, voilà, je vais obéir parce que Dieu, si j'obéis, Dieu va faire ça et ça pour moi. Si je fais telle et telle chose, si je pose telle et telle action, alors Dieu va me bénir en retour. Quand nous sommes comme ça, nous avons la mentalité du serviteur. Quand tu commences à fonctionner dans la mentalité du fils, tu sais que tu es le fils de la maison. Et tu sais qu'au niveau de ta mentalité, tu n'as pas besoin de forcer Dieu à faire quoi que ce soit. De lui montrer que tu appliques la parole de Dieu. De lui rappeler son alliance 50 fois. Mais tu fonctionnes par amour. Et Dieu connaît ton cœur. Et là, la foi ne devient plus quelque chose de difficile. Ça devient quelque chose d'évident. En disant, Seigneur, tu es mon Père. Je sais que c'est déjà fait. Comme Jésus disait, Père, je sais que tu m'exauces toujours.
Vous
voyez, avec Jésus, ce n'était pas difficile avec son Père céleste. Parce que lui avait la mentalité du Fils. Mais nous restons souvent dans des mentalités de serviteurs. Et nous avons le bénéfice, quand on sert bien, eh bien, on est honoré par le patron. Un bon patron qui a un bon employé lui donnera de la promotion. Un mauvais employé, le patron le foutra dehors. Donc c'est bien d'être un employé pour Dieu, entre guillemets. Mais Dieu ne nous appelle pas à ça.
Il
nous appelle à aller beaucoup plus haut. Nous allons prier ensemble. Père, je prie pour ton peuple.
Et
je prie, Seigneur, vraiment pour que tu nous aides de plus en plus à sortir de ces mentalités afin d'accéder à ton meilleur, Seigneur. Merci, mon Père. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Bon dimanche à tous.
Soyez
bénis et réfléchissez à tout ça.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.